Salut Raph.
Salut Pat.
Donc, OK, le président Biden là, a décidé là, très, très rapidement dans son mandat que l'oléoduc Keystone XL allait pas voir le jour, allait pas passer par le territoire américain. Et ça fait des remous aux États-Unis.
Oui, ça fait des remous, surtout depuis la publication hier, la diffusion d'une entrevue super intéressante avec un des plus importants dirigeants syndicaux aux États-Unis. Pourquoi? Parce que, en fait, cette controverse, on s'en est parlé, toi et moi, à quelques reprises, ça date en fait de la présidence Obama. Ça date d'il y a plus de 10 ans, et à l'ère Obama, ça avait été très, très long avant que l'administration américaine prenne même une décision à savoir si on allait octroyer le permis ou non. Pourquoi? Parce que c'était politique. Ça venait opposer de façon frontale deux des parties intégrales, disons, de la coalition électorale des démocrates. D'un côté, le mouvement syndical, qui voulait du projet parce qu'elle allait créer des emplois. De l'autre côté, le mouvement environnemental qui n'en voulait pas, pour des raisons évidentes, la promotion d'énergie fossile. Et Obama a essayé de repousser le plus possible la décision jusqu'à ce que, lors de son année de réélection en 2012, il tranche. Et comment il a tranché? Contre le projet. Et ça, c'était énorme comme statement quand on connaît moindrement le leg qu'ont les syndicats au sein du Parti démocrate depuis, écoute, la première moitié du 20e siècle. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que Joe Biden s'était présenté comme un candidat démocrate plus près, si on veut, de cet héritage ouvrier-là. D'ailleurs, il avait lancé sa campagne présidentielle en 2019 dans une shop syndicale à Pittsburgh. Mais là, tu vois, une fois au pouvoir, pas le choix de faire des choix à son tour. Et qui dit faire des choix, dit faire des mécontents au sein même de sa coalition électorale. Et donc, comme M. Obama, M. Biden a lui aussi tranché contre le projet Keystone. Et hier, donc, t'avais Richard Trumka, qui est le président d'un syndicat, écoute, qu'on pourrait peut-être comparer à la CSN ou la FTQ au Québec. C'est un petit peu comme si t'avais quelqu'un de cette ampleur-là qui se faisait demander, donc, qu'est-ce qu'il pensait à la fois de la décision de Biden sur Keystone et de façon plus large sur l'interdiction peut-être à venir là, de Biden d'exploitation des gaz de shale sur les territoires de juridiction fédérale. Je veux qu'on entende ensemble l'espèce de malaise que ça crée. On écoute ça.
How comfortable are you with Biden's plan to ban fracking on federal lands?
I think it needs to be looked at and studied and carefully thought through. I think the future of the country should be considered in that process.
Ça, ce qui est intéressant, c'est que non seulement il hésite, là, mais on a coupé, je le précise pour les auditeurs, là, on a coupé à peu près le trois quarts des pauses.
La pause était plus longue que ça, là.
Était substantiellement plus longue. Et donc, ce que ça te montre, c'est que les syndicats veulent rester derrière le Parti démocrate parce qu'évidemment, c'est un parti qui est beaucoup plus proche de leurs intérêts que peut l'être le Parti républicain. Mais en même temps, ce ne sont pas toutes les décisions d'une administration démocrate qui vont leur faire plaisir non plus. Fait que dans un système avec deux partis, ce sont de très, très grosses tentes, ces deux partis-là. Et veux pas, quand tu gouvernes, à un moment donné, tu vas faire des mécontents dans ta propre gang, pardon. Je pensais que c'était un bon exemple à donner pour illustrer ça.
OK, et la Virginie là, qui vote pour abolir la peine de mort.
Écoute, on vient de se parler de transformation sociale, transformation politique électorale aux États-Unis. Il y en a toute une en Virginie. Écoute, c'est un bastion conservateur. C'était un bastion conservateur avant Obama. Ça n'avait pas voté démocrate depuis les années 60 avant Obama. Et là, depuis Obama, c'est de plus en plus démocrate. Et là, cet État-là est sur le point d'abolir la peine de mort. L'Assemblée législative, qui est dominée par le Parti démocrate depuis quelques années, qui a voté pour l'abolition, manque juste la signature du gouverneur, qui est aussi un démocrate et qui est pour l'abolition. Fait que c'est sans doute une question de temps. Et voici en quoi c'est intéressant. La Virginie, c'est l'État qui a exécuté le plus grand nombre de prisonniers de toute son histoire. En fait, depuis les 50 dernières années, c'est plus de 100 prisonniers qui ont été exécutés en Virginie. Donc, c'est intéressant au niveau de la transformation de cet État-là, mais c'est aussi intéressant de façon beaucoup plus large pour l'enjeu de la peine de mort aux États-Unis. Parce que tu le sais sans doute, c'est une pratique qui, oui, est présente aux États-Unis comme dans très peu de démocraties occidentales, mais qui est nettement en recul un peu partout depuis plusieurs années.
Hey, mais attends, je t'arrête une seconde. Vas-y. Dis, la peine de mort est présente dans très peu de démocraties occidentales. À part les États-Unis, là, j'essaie de voir, ou d'autres.
Quelle bonne question.
Parce que, tu sais, France, je regarde, pas. Non, mais j'y vais au pif. En Australie, je pense que ça n'existe pas. Mm-hmm. Nouvelle-Zélande non plus, Canada, évidemment, non. France, Grande-Bretagne, Italie, Espagne, Allemagne, j'entends jamais parler de ça.
T'as raison.
Je pense que les Américains, c'est comme les champions de la peine de mort avec la Chine.
Ouais. C'est pour ça qu'on parlait de démocratie occidentale. Parce qu'effectivement, ce qui est sûr, c'est que au niveau de l'ampleur de l'utilisation, il n'y a pas de commune mesure dans aucune autre démocratie occidentale. Ça, j'ai aucun doute. Est-ce que légalement, c'est permis dans d'autres démocraties? Sincèrement, il faudrait que je vérifie. Mais c'est sûr que les États-Unis sont dans une ligue à part pour tout ce qui est de l'utilisation, de l'ampleur d'utilisation. Parce que quand tu regardes des pays qui sont comparables, ce ne sont pas des démocraties. Là-dessus, tu as absolument raison. Et donc, la question, ça va être de savoir, dans l'ensemble du pays, que fait le nouveau président Biden, justement? Que fait le nouveau Congrès démocrate? Parce que depuis quelques années, ça aussi, c'est une transformation. Dans son programme officiel, le Parti démocrate est maintenant, à l'échelle nationale, contre la peine de mort pour son abolition. Ça, écoute, on s'en reparlera, là, mais c'est hallucinant comme transformation. Il y a à peine, 20 ans, 25 ans, Bill Clinton, qui était un président démocrate, était farouchement pour la peine de mort. Là, à Washington, on est en train de sérieusement considérer la possibilité de présenter un projet de loi fédéral, donc à la grandeur des États-Unis, qui couvrirait l'ensemble du pays pour abolir une fois pour toutes cette pratique-là. Donc, c'est vrai, tu as raison de dire que les États-Unis sont à part, mais quand tu regardes, disons, ce cas à part-là, c'est quand même une transformation dramatique en relativement peu de temps.
OK. Et parle-nous de George Shultz, un ancien secrétaire d'État américain que les plus vieux vont s'en souvenir. C'était le secrétaire d'État de Reagan, je pense, est décédé.
T'as raison. À la toute fin de la guerre froide, et c'est fascinant. J'ai deux petites anecdotes rapidement pour toi. La première, il est mort à 100 ans. Et dans ses dernières semaines de vie, il a écrit ceci. Il a dit que à 100 ans, une des plus importantes leçons qu'il avait retirées, c'est que la devise la plus forte au monde, c'était la confiance humaine. Que ce soit dans un vestiaire sportif, un bureau, une école, une armée ou un gouvernement, s'il y avait de la confiance entre les gens, il y avait des bonnes choses qui allaient se produire.
Oui, puis il avait raconté, j'avais lu son texte, il racontait à quel point ça avait été capital, la confiance, quand il négociait avec les Soviétiques, par exemple, des traités pour limiter la prolifération des armes nucléaires.
Exact, exact. Donc, un type fascinant, il va avoir travaillé jusqu'à la toute fin de sa très, très longue vie. Et petite anecdote très rapidement, que j'ai entendue il n'y a pas longtemps à son sujet. Quand il était en fonction, à titre de chef, évidemment, de la diplomatie américaine, il y avait la pratique apparemment d'inviter un ambassadeur qui venait d'être nommé, de lui donner un globe terrestre, puis de lui demander de situer le pays auquel il avait été affecté.
Ben voyons!
Mais c'est quoi le punch de l'histoire?
Non.
C'est que la bonne réponse, Pat, c'était tout le temps la même. C'était les États-Unis. Autrement dit, oublie jamais, peu importe où on t'envoie dans le monde, que le pays que tu sers en premier, c'est les États-Unis.
Ah, très
quand
bon.
Même pas pire. Ouais.
Merci, Raph. On se reparle demain.
À demain.